À présent, suivez Dialogue entre Congolais présenté par Alain Irung.
Bonsoir. Après la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 28 novembre dernier par la CENI, plusieurs missions d'observation dénoncent le manque de transparence lors de la compilation et la transmission des résultats des votes. La dernière en date est celle de l'Union européenne. Quelle analyse à faire de tous ces rapports? Pour en parler, nous recevons comme invité André Alain Atundu Lyongo, cadre de la majorité présidentielle et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République CDR. Monsieur Atundu, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Augustin Mampouya, président national du parti politique de l'opposition, Rassemblement des démocrates pour la rupture et le renouveau, RADER en sigle, membre de la plateforme dynamique Tshisekedi président. Professeur Mampouya, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur Bob Kabamba, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous qui êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Grégoire de Kinshasa. La série des rapports des missions d'observation, notamment ceux du Centre Carter et de l'Union européenne, prouve que le scrutin n'était pas crédible et que la communauté internationale ne devrait pas le cautionner. Oudaga Sylvain de Bougna en province orientale, l'émission d'observation avait tout le temps de dénoncer ces cas d'irrégularité constatés pendant le déroulement des élections. Pourquoi attendre après la proclamation de résultats provisoires pour se prononcer? Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Plusieurs missions d'observation dénoncent le manque de transparence des résultats de l'élection présidentielle en RDC. Tour à tour, le Centre Carter, l'archevêque de Kinshasa, la mission d'observation de l'Union européenne et le sous-secrétaire adjoint du vice-secrétaire d'État américain aux affaires africaines émettent des doutes quant à la crédibilité que l'on pourrait accorder aux résultats provisoires publiés par la CENI. Plus de détails avec vous, Kéline Kouté.
Dans une déclaration publiée samedi dernier, la mission d'observation électorale du Centre Carter estime que les résultats de l'élection présidentielle annoncée par la Commission électorale nationale indépendante manquent de crédibilité. Selon ses observateurs, la qualité et l'intégrité de la compilation des résultats ont varié de la bonne application des procédures à des irrégularités graves. Le Centre Carter note une désorganisation dans la réception des plis des résultats à Kinshasa et à Lubumbashi. Le rapport du Centre Carter indique que les résultats provisoires annoncées par la CENI contiennent plusieurs données qui manquent de crédibilité. Cependant, la déclaration de cette ONG ne remet pas en cause, je cite, l'ordre des résultats des candidats tels qu'annoncés par la CENI. Fin de citation. Après le Centre Carter, c'est au tour de l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Moussengo, de se prononcer à ce sujet. Il indique à l'analyse des résultats publiés par la CENI, il y a lieu de conclure qu'ils ne sont ni conformes à la vérité ni à la justice. L'archevêque de Kinshasa demande aux contestataires éventuelle de recourir aux voies de droit et de ne pas se livrer à la violence, expliquant que les résultats sont provisoires et doivent être confirmés par la Cour suprême de justice. Un autre rapport est celui de la mission d'observation de l'Union européenne qui a déploré le manque de transparence et les irrégularités de la collecte à la publication des résultats donnant la victoire à Joseph Kabila et rejeté par l'opposition.
Le rapport de la mission d'observation de l'Union européenne souligne que l'absence d'observateurs lors de la consolidation des résultats au Centre national de traitement de la commission électorale à Kinshasa ne peut qu'affecter la confiance dans les résultats annoncés et leur crédibilité, ajoutant que la publication des résultats provisoires, je cite, reste caractérisée par un manque de transparence, fin de citation. Une autre réaction, la dernière en date, est celle du sous-secrétaire adjoint du vice l'ex-secrétaire d'État américain aux affaires africaines cité par Radio France Internationale, Bruce Wharton déclare, je cite, que les élections organisées en RDC n'atteignent pas le niveau de crédibilité atteint par d'autres pays du continent qui ont eu à organiser des scrutins récemment. Fin de citation. Notre émission d'information est arrivée peu aux mêmes conclusions que celles rendues publiques par le Centre Carter, ajoute-t-il. Professeur Auguste Mampouya, quelle analyse faites-vous de tous ces rapports?
Tout seulement que tous ces rapports concluent à la même chose, c'est-à-dire que les résultats ne sont pas crédibles, que les élections ont été mal organisées, mais ce sont des rapports établis par des gens bien élevés, n'est-ce pas, des gens civilisés qui savent raffer leur langage, mais pour ne pas dire des choses scabreuses à l'égard des organisateurs des élections. En réalité, ils auraient dû conclure brutalement à la tentative à l'intention de frauder, parce que ce ne sont pas des erreurs, comme l'a dit le président de la République, ce sont des fautes intentionnelles commises par les responsables de la CENI pour favoriser un candidat. Donc, moi, je crois que tout cela alimente la lutte que mène l'opposition en ce moment pour que la vérité des urnes soit établie et reconnue par tous. Voilà donc la première leçon qu'on en tire de cela, sans entrer dans les détails des différents points d'achoppement ou les différentes défaillances qui apparaissent ça et là. Mais globalement, voilà ce qu'on peut en dire. On en verra peut-être dans les détails après.
Alors, professeur, vous dites que la conclusion, c'est tous ces rapports concluent la même chose, que les résultats ne sont pas crédibles. Et qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence, tous ces rapports?
Si les élections ne sont pas crédibles, si les résultats ne sont pas crédibles, qu'en pensez? Sinon dire qu'on a caché la vérité, que la vérité n'est pas celle qui a été proclamée, la vraie vérité a été cachée. Et nous pensons, nous, à l'opposition, que, étant donné que toutes les défaillances, toutes les fautes graves qui ont été commises l'ont été au profit d'un candidat, il faut dire que tout cela a défavorisé l'autre candidat et que c'est en réalité ce dernier qui a gagné aux élections. Nous le disons sans violence, même sans élever le ton, mais avec conviction, parce que tout démontre effectivement que Étienne Tshisekedi s'est vu voler sa victoire.
Professeur, je reviens pour préciser ma question. Quelles conséquences concrètement ça pourrait avoir?
Concrètement, c'est-à-dire quoi? Sur le plan institutionnel ou juridique ou quoi?
Tout compris.
Écoutez, ça signifie que Joseph Kabila n'a pas été élu et qu'il faut trouver des mécanismes pour rétablir le véritable élu de la nation congolaise. Et on sent d'ailleurs dans l'impatience de la population. Je vous fais remarquer que chaque fois que pendant toute une semaine, on préparait l'opinion à annoncer la victoire de Joseph Kabila, on annonçait constamment chaque jour Joseph Kabila en tête, on n'a pas vu de liesse populaire. Par contre, même les simples rumeurs qui ont propagé le bruit que Tshisekedi était élu ont fait éclater une explosion de joie dans bien de quartiers que la police et l'armée ont réprimé dans le sang. Voilà ce que notre peuple a senti et comment notre peuple a appris ce qui est arrivé, que ses aspirations ont été bafouées. Et il attend que ses aspirations soient rétablies et que les droits du peuple soient rétablis. Je fais remarquer que, au-delà d'être un principe juridique, le droit de vote est d'origine biblique. Et par conséquent, c'est un droit divin attribué à l'homme. Et donc, priver l'homme de sa liberté de choix ou détourner son choix relève d'une faute extrêmement grave. Je veux dire, la violation de la loi divine.
Professeur, il y a, vous savez que l'émission est également pédagogique. Il y a cet auditeur, Emmanuel Loussagila de Goma au Nord Kivu, qui pose la question de savoir si ces observateurs qui détiennent des preuves d'irrégularité ne peuvent-ils pas aussi saisir la Cour suprême de justice de la RDC.
Non, la Cour suprême ne peut être saisie en matière électorale que par les candidats indépendants ou par les partis qui ont présenté des candidats. Donc, toute autre personne est exclue dans ce cas.
Alors, l'autre versant de la question, professeur, c'est que est-ce que la Cour suprême de justice, dans ses investigations, pourrait par exemple, jeter un coup d'œil à ces observations?
C'est fort possible, hein, on ne peut pas l'en empêcher. Je ne vais pas le lui recommander spécialement, mais elle est à la recherche de la vérité. Donc la Cour pourrait très bien utiliser toutes les sources d'informations, y compris celles que la CENI est obligée de lui remettre. Mais on se rend compte que même celles qui sont énumérées dans la loi n'ont pas été déposées à la Cour à temps. Et puis on se rend compte que les documents qui sont déposés à la Cour sont des documents de seconde main. Ce ne sont pas les PV des bureaux de dépouillement. Ce sont ce qu'ils appellent, dans un langage tarabiscoté, des PV des résultats consolidés, après traitement. Quel traitement doit subir un résultat qui sort des urnes? Il est brut, il est dans le PV a été affiché, tout le monde était au courant, et puis après on va le traiter, c'est-à-dire quoi?
Merci.
Moi je crois que la compilation devrait s'analyser en une simple sommation arithmétique.
Merci.
On prend les PV, on additionne les résultats consignés dans les PV et on établit l'ordre. Voilà, c'est tout. Mais
merci.
Chez nous, on les traite, on les consolide dans le secret le plus total, sans témoins, sans observateurs et même sans affichage, parce que nous savons que tous les rapports l'ont dit, on l'a remarqué sur le terrain.
Merci.
Les PV de CLCR n'ont pas été publiés partout, ils n'ont pas été affichés, parce que la CENI avait interdit et avait demandé qu'on les lui communique avant toute autre procédure.
Merci, car professeur.
C'est une intention manifeste de tricher.
Merci, professeur. André Alain Atundu Liongo, quelle est votre analyse? Vous avez suivi le professeur Mampuya.
Je voudrais d'abord saluer le professeur Mampuya et le professeur Kabamba. Mampuya que je connais personnellement bien et le professeur Kabamba à force d'émission. Il est évident que les élections se sont tenues dans des circonstances, dans des conditions difficiles. Il y a eu des imperfections, il y a eu des erreurs, tout le monde a reconnu. Mais la conclusion que personne n'a tirée, c'est de remettre en cause la victoire de Kabila. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'ordre d'arrivée est une photographie sociologique ou une photographie des réalités sociologiques. N'est-ce pas ? On ne va pas entrer dans les détails. Alors, deuxièmement, il faut tenir évidemment compte de toutes ces déclarations. Il faut tenir compte aussi des déclarations des acteurs congolais, notamment le MLC. Le MLC qui, tout bien considéré, estime que cela traduit la volonté du peuple congolais. Alors, quant à dire qu'il y a fraude manifeste en faveur des candidats, en l'occurrence le président Kabila, je crois qu'il faut réfléchir par deux fois. Lorsque, au Kasaï, des citoyens ont été empêchés de battre campagne, lorsque, dans des bureaux de vote, on a chassé des témoins, alors, cette fraude-là, c'est en faveur de qui? Pourquoi ces résultats-là ne sont pas remis en cause? Eh bien, tout simplement, parce que lorsqu'on fait la sommation des incidents, etc., et on évalue leur gravité, leur impact sur, finalement, la vérité sociologique, on se rend compte que tout cela n'est pas de nature. Tout cela n'est pas de nature à changer la vérité sociologique. C'est pour cela que Carter, n'est-ce pas, le rapport de Carter dit que malgré tout, eh bien, on ne remet pas en cause l'ordre d'arrivée. Parce qu'il y a deux moments dans l'histoire de chaque pays où l'intelligence doit céder le pas à la sagesse. Et la sagesse ici, je crois que ça a été recommandé par l'appel de la Cinco, de nos évêques catholiques, c'est qu'il faut suivre la voie de droit. Aujourd'hui, ceux qui contestent, notamment Vital Kamerhe, ont saisi la Cour suprême. Eh bien, si quelqu'un d'autre n'est pas content, qu'il fasse la même chose, alors on verra où se trouve la vérité. Parce que nous évoluons dans un système que nous-mêmes avons mis en place et que nous ne pouvons remettre en cause sans raison valable et pertinente. C'est justement le moment de le mettre à l'épreuve. Et en plus, il faut éviter de gérer le pays, encore moins ou plus la justice, dans une intolérance, n'est-ce pas, sous l'emprise de la pensée unique. Parce que on pense que Tshisekedi a gagné, donc Tshisekedi a gagné. Je peux vous donner un cas. Quelque part à Marenza, j'avais des témoins. Eh bien, il y a eu cette ambiance de fête, les gens de l'UDPS chantaient. Eh bien, ici, Kabila n'aura même pas 10 voix. Vous allez voter pour qui? Ah, mais bien sûr, pour le numéro 11. Mais quel ne fut pas leur étonnement lorsqu'au dépouillement, Kabila s'est retrouvé avec 60 et Tshisekedi avec 100. On dit, mais comment? Il a même des gens ici. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on fait du bruit que cela traduit la réalité. Il faut attendre que la vérité sorte des urnes. Si vous avez des éléments pertinents qui disent que ce qui sort des urnes n'est pas la vérité, on saisit la Cour constitutionnelle et ici la Cour suprême.
Alors, quelles conséquences ces rapports pourraient avoir sur le processus électoral, d'après vous?
Sur le processus électoral?
Et sur les résultats de l'élection présidentielle?
Non. D'abord, ces rapports n'ont pas tiré une conséquence sur les résultats. Parce qu'ils ont dit, l'ordre d'arrivée est vrai.
En même temps, ils disent que le processus n'est pas crédible.
Non. Mais c'est ça le paradoxe. Alors pourquoi ils n'ont pas conclu? Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tous les incidents notés, observés, ce ne sont pas de nature à transvertir la volonté populaire. Et que, je le répète, résultat, Kabila, premier et vainqueur, Tshisekedi, deuxième et perdant, traduit la photographie sociologique. Le professeur Kinki a brièvement tracé hier la carte sociologique de notre vote, de nos votes. Et il en a conclu que celui qui a le bandoundou, compte tenu de tout cela, eh bien, il est probablement vainqueur. Le candidat Kengo a eu chez lui plus de voix, n'est-ce pas? 300 000, je ne sais pas pourquoi, je ne sais combien. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que la source, la raison déterminante de vote chez nous est d'ordre ethnologique. Donc c'est par là qu'il faut voir. S'il y a une différence ethnologique en votre faveur, vraisemblablement, vous passez.
Professeur Bob Kabamba, quelle est votre analyse par rapport à tous ces rapports?
Plusieurs choses. Donc, une salutation à mes collègues et aux auditeurs de Radio Capi. Plusieurs choses en réponse à votre question. Il faut bien se rendre compte que un processus électoral, ce n'est pas uniquement le jour du vote. Un processus électoral se prépare depuis bien avant. Dès le départ, on a eu déjà à faire remarquer à plusieurs reprises que les préparations de ce processus ne se passaient pas dans des conditions optimales, notamment liées à toute une série de questions, la question financière, la question de la sécurisation, la question aussi même du timing et du calendrier électoral tel qu'il a été élaboré, ce qui a eu comme conséquence de pouvoir, entre guillemets, précipiter et accélérer certaines choses et faire même certaines activités en double pour essayer de gagner du temps et de respecter le calendrier du 28 novembre. Et la conséquence, au fait, de ce processus, une des conséquences, et ce sont les différents rapports tels que c'est publié par les différents organismes. Car en lisant tous ces, ce ne sont pas encore des rapports vraiment exhaustifs, ce n'est pas encore, on va dire, grosso modo, des résumés et des communiqués de presse sur toute une série de faits. Et en lisant donc ces communiqués de presse, nous ne faisons pas encore des rapports définitifs de l'observation de nos élections. Il ressort de manière très claire qu'il y a effectivement cette précipitation et que tout n'a pas été fait vraiment dans les règles de la... Et tous les rapports insistent là-dessus de manière très claire avec les problèmes d'ordre logistique, une mauvaise localisation des bureaux de vote, certaines irrégularités qui tuent aussi à cette impréparation. Et donc tout ça est relevé sur la conséquence en fait de l'impréparation, je peux dire, du processus. Par ailleurs, ce qui est quand même hyper important de pouvoir souligner, c'est que on commence à avoir effectivement ces rapports et qui nous permettent de pouvoir bien juger et de bien savoir si le processus électoral tel qu'il est amorcé, parce qu'il y a encore d'autres scrutins qui doivent avoir lieu, ne peut pas être corrigé en fonction de tout ce qu'il y a eu comme manquement. On peut espérer que la CENIM va tenir compte de ces différents rapports pour modifier sa façon de travailler et surtout pour que les prochains scrutins, parce qu'il y en a encore, puissent se passer dans d'autres conditions que celles que l'on vient d'avoir. Alors lorsque l'on lit aussi bien la Fondation Carter que le communiqué de presse donc de la mission d'observation, tout ça arrive à une conclusion. Je vais vous lire par exemple celle de l'Union européenne. Il dit ceci: il est de la responsabilité des acteurs politiques et des institutions congolaises de mener leur propre examen des résultats des élections et d'identifier les solutions à la situation actuelle. Donc, la mission d'observation, etc. Donc ici, de manière très claire, toutes les missions, en fait, s'inscrivent dans un processus tel qu'il a été établi, le processus qui a été défini par la Constitution et aussi par la loi électorale. Ce fait, il n'appartient pas aux missions d'observation de pouvoir dire on annule, on n'annule pas les élections, etc., puisqu'il y a un processus. Et c'est la Cour constitutionnelle, ici dans l'état présent de la Cour suprême de justice, qui est amenée à pouvoir juger de la régularité ou de l'irrégularité de ce processus. Donc, les différentes missions d'observation n'ont pas ce droit de pouvoir se substituer donc à la CENI pour dire si on doit annuler ou pas annuler ce scrutin en fonction de ces irrégularités qui ont été constatées.
Merci professeur. Nous allons prendre cette question qui nous vient de Kasongo Maniema pour vous.
Patrick Mwamba à Kasongo, à partir du Maniema. Quel est le rôle des observateurs internationaux? Qui les invite dans un pays pour faire cette observation? Et à qui il doit rendre compte après avoir fait l'observation? Et pour le cas échéant de la RDC, pourquoi ces observateurs n'ont pas publié leur rapport avant la publication de la CENI?
Réaction professeur Bob Kabamba.
Merci beaucoup. Première chose, les observateurs internationaux rendent leur rapport normalement à l'organisme qui les a envoyés observer les élections et ils doivent réserver copie de leur rapport, bien sûr, à l'organe qui organise les élections, en l'occurrence ici, la CENI. Excellente question qui a été posée par l'auditeur en disant pourquoi effectivement la mission d'observation n'a pas relevé toute une série de choses. Normalement, lorsqu'il y a une mission d'observation, ils ont de séances de travail avec l'organe organisateur du scrutin. Et au cours de ces réunions, j'imagine que la mission d'observation a fait toute une série de remarques, parce qu'ils sont là quand même, il y a deux parties dans cette mission, il y a ce qu'on appelle une mission long terme et une mission court terme. Et donc la mission long terme, j'imagine qu'il est là depuis quand même plusieurs semaines, participe aux réunions avec la CENI, devait déjà préalablement faire attirer l'attention donc de la CENI sur toute une série de remarques, sur toute une série de faits de la mission observée et qui devait en rendre compte
donc à la CENI et à la CENI de pouvoir en tenir compte ou pas. Donc elle n'est pas obligée de pouvoir suivre ce que dit l'émission d'observation. Alors pour ce qui concerne l'émission à court terme, là c'est essentiellement l'observation donc du scrutin, comment ça se passe, etc. et tout. Par exemple, pour le long terme, ils sont aussi obligés de pouvoir, par exemple, suivre la campagne électorale, suivre ce qui se passe dans les médias, est-ce que les conditions de sécurité sont maximales, etc. Et donc, tous ces éléments que les missions d'observation ont, en font part avant le scrutin à la CENI, et la CENI essaye tant bien que mal d'en tenir compte pour pouvoir modifier et pour pouvoir en fait corriger toute une série de choses. C'est pour ça aussi que je dis qu'il sera important et intéressant à ce que aussi bien la Fondation Carter que la mission d'observation de l'Union Européenne, parce qu'il y a aussi la mission de la UEFA, etc., que ces différentes missions puissent quand même rendre leur rapport, donc le rapport définitif, puissent le rendre public, ce qui permettra au fait de pouvoir bien se rendre compte où étaient les difficultés par rapport à ce scrutin et que les prochains scrutins, qu'on ne puisse plus refaire les mêmes erreurs que tu as été commises et constatées lors de ce scrutin.
Professeur Auguste Mampouya, il y a mon Ganza Moïse de Goma en Nord-Kivu qui dit: nous avons lu plusieurs rapports d'observation depuis la publication des résultats partiels de l'élection présidentielle. Ces missions ne sont-elles pas aussi responsables de ces irrégularités dans la mesure où, sauf ignorance de ma part, elles n'ont formulé aucune recommandation pendant le dépouillement dans les CLCR, entre parenthèses, des recommandations véritables? Professeur Didier, ne serait-il pas parmi les leçons à tirer que ces missions d'observation, par exemple, publient ces rapports avant la publication de résultats?
Par rapport à cela, je dois d'abord me référer à ce que vient de dire Bob, que je salue, que j'ai connu très amicalement au cours de plusieurs missions menées ensemble. Et il a situé, n'est-ce pas, le rôle des missions. Et on dit à Tundu, que j'apprécie énormément parce que c'est parmi les meilleures générations, les meilleures générations des étudiants, depuis il sait comment je l'apprécie, mais il sait aussi, il a été diplomate, il sait que ces missions ne peuvent pas venir dire ici, c'est mauvais, nous disons il faut abandonner, il faut annuler, etc. Ils ne peuvent pas dire ça. Même la phrase à laquelle il s'est agrippé, qui dit « cette déclaration ne remet pas ». C'est ça qu'elle dit la phrase. « Cette déclaration ne remet pas en cause l'ordre d'arrivée ». Ça ne signifie rien. Ça ne signifie surtout pas que l'ordre d'arrivée est vrai. Ce que lui insinue. Et puis, la meilleure chose, c'est ce que Boba a rappelé tout à l'heure, qui est dans tous les rapports, ce sont les Congolais, les autorités, les acteurs politiques congolais, qui doivent tirer les conséquences pour trouver les solutions à la situation actuelle. Voilà l'idée clé, celle-là. Donc, à nous de ne pas nous cacher derrière un doigt et d'être sincères, reconnaître que ce ne sont pas des erreurs, ce sont des fautes graves. Andy, qui est juriste, sait très bien que ce qui caractérise la faute, c'est l'intention. Ce qui caractérise le crime, c'est l'intention. Et par conséquent, l'intention étant manifeste, on ne peut plus parler d'erreur.
Merci.
Alors, publier avant les résultats de la CENI, ce serait mettre la charrue devant les bœufs et la CENI se braquerait, comme on a vu Mouimoulou se braquer l'autre jour. Tout le monde a remarqué son désarroi. Il était énervé, fâché, je ne sais pas, il se battait contre qui. Eh bien, elle se braquerait de nouveau pour dire de quel droit c'est nous qu'ils vont publier, etc., etc. Donc, ils ne peuvent pas faire cela parce que c'est dans les règles de l'observation internationale. Et comme je l'ai dit, c'est tout de même des missions conduites par des diplomates et des gens, des experts qui sont des gens généralement bien élevés.
Merci, professeur. Réagissant au rapport de plusieurs missions d'observation dénonçant le manque de transparence des résultats de l'élection présidentielle du 28 novembre dernier, le gouvernement congolais dit reconnaître les différentes erreurs qui ont entaché le processus électoral en RDC. Lambert Mende les met sur le compte de la jeunesse et de l'inexpérience de l'administration électorale mise en place dans des conditions difficiles. Pour le porte-parole du gouvernement congolais, ces dysfonctionnements ne sont pas de nature à remettre en cause les résultats électoraux tels que publiés récemment par la CENI. On écoute Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, au téléphone de Samuel Kachak.
Tous ces constats ont déjà été faits par nous-mêmes au niveau du gouvernement. Le président de la République lui-même, évaluant le processus électoral, a parlé d'erreurs, de fautes qui ont pu être commises. La plupart de nos observateurs nationaux l'ont fait. C'est des choses qui sont réelles. La première chose pour nous, c'est que on serait étonné qu'il en ait été autrement avec la jeunesse, l'inexpérience de notre administration électorale qui a été mise en place dans des conditions qui ne permettent n'était certainement pas qu'il puisse assurer des performances tout à fait comparables à celles des administrations beaucoup plus rodées. On a empêché à cette commission d'être mise en place à temps. On l'a empêché de travailler dans une atmosphère de sérénité. Donc il est normal qu'il y ait des couacs pour sa première expérience. Mais ces dysfonctionnements, ces irrégularités n'ont pas été de nature à remettre en cause les résultats tels qu'ils ont été proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Sinon, nous sommes prêts absolument à encourager la Commission à remonter la pente. Dans quel pays n'y a-t-il pas de dysfonctionnement dans une nouvelle administration qui se met en place?
Professeur Auguste Mampouya, je vous demande vraiment une brève réaction avant de donner la parole à André Alain Atondou.
Oui, ce qu'il appelle des couacs, ça c'est son langage, hein, c'est son vocabulaire. Quand on vous dit que 1 300 000 électeurs n'ont pas été comptabilisés, on appelle ça couac. Quand on vous dit qu'il y a, par exemple, dans Kinshasa, plus de 2 000 bureaux qui n'ont pas été compilés, on appelle ça couac. C'est quand même terrible ça. Est-ce qu'on nous a expliqué un seul instant pourquoi ces bureaux n'ont pas été compilés? Par contre, on trouve au Katanga, parce qu'il faut bien en parler, on trouve au Katanga des bureaux où le nombre de votants correspond au nombre des enrôlés. Entre-temps, il n'y a eu ni un mort, ni un malade, ni quelqu'un en voyage, non, tous étaient là, bien pourtant. Il n'y a pas eu de vieux qui ne pouvaient pas aller à 10 kilomètres, etc. Encore que j'imagine qu'au Katanga, les bureaux étaient à 2 kilomètres les uns des autres, parce que le taux de participation est aberrant. Moi, j'étais dans ma circonscription électorale. J'ai vu des électeurs devant aller voter, non pas dans le bureau du village à côté, mais à 60 kilomètres, s'il vous plaît. Même les jeunes gens, ils ne feraient pas ça.
Merci.
Ça, ce sont des électeurs qui ont été exclus du vote. Mais ça, merci. Ce ne sont pas des couacs, ça. En même temps qu'au Kassai, chez moi en particulier, dans ma circonscription, la cartographie des bureaux de vote a été publiée 5 jours seulement avant le vote. Ça, ce n'est pas intentionnel. Non,
merci.
Non, mais écoutez, qu'on abandonne la blague, qu'on prenne les choses avec sérieux, hein, et qu'on essaie de trouver les solutions, comme le recommandent tous les rapports d'émission.
Merci, professeur. André Alain Atondou, le ministre Mende dit, on pouvait s'étonner qu'il en ait été autrement. Comment vous réagissez par rapport à cet aspect?
C'est-à-dire que même ceux qui critiquent aujourd'hui le comportement du processus électoral, n'aurait pas pu aboutir à un autre résultat mis dans les mêmes conditions que celle-ci.
Parce que
les conditions, c'est pas seulement, comme l'a dit le professeur Kavamba, le jour de l'élection. Ça commence avant.
Les prémices étaient
tous les arriérés, l'argent qui est venu à la fin, et tout cela. Et puis, quand même, la sagesse dont a fait montre et l'électorat et la classe politique en général. N'est-ce pas? On a affiché certaines listes le jour même, mais la classe politique en avait fait un drame. Certains acteurs politiques majeurs ont fait des appels à la violence, la classe politique n'en a pas fait un drame. Certaines candidatures, on va dire, même au niveau de la présidentielle, on n'a pas été regardant. Pourquoi? Parce que nous voulons sauver l'essentiel, c'est-à-dire la culture de la démocratie. Et c'est ce que les évêques disent. Accepter les verdicts des urnes, un tel signe éloquent de patriotisme, et en cas de contestation, qu'il emprunte la voie légale pour régler le contentieux électoral. Je crois que c'est ça qui doit nous mettre d'accord et nous permettre de sauver l'essentiel, c'est-à-dire la culture démocratique. Et cette voie a été empruntée par M. Caméré. Eh bien, voyons voir, voyons les résultats, et que nous puissions nous-mêmes tirer les conclusions des institutions que nous avons mises en place. C'est nous qui avons donné le rôle à la banque, à la Cour suprême de justice, de proclamer les résultats, de connaître du contentieux. Eh bien, ce n'est pas parce que la conclusion de certains rapports nous dérange qu'elle n'est pas conforme à la réalité sociologique. Ne faisons pas des jugements a priori sur le comportement de la Cour suprême. Nous devons être simples dans la défaite et sages dans la victoire.
Ingénieur Alain Mambandou de Kisangani en province orientale pose la question de savoir si le Centre Carter, l'Union européenne et les observateurs internationaux relèvent le manque de crédibilité des élections en RDC, quelle sera la suite, André Alain Atundu?
Ils ont relevé. La suite, c'est qu'il faut suivre la voie légale. Parce que la Constitution et la loi ont prévu qu'en cas de contentieux, c'est-à-dire en cas d'insatisfaction, pour des faits, pour des comportements, eh bien, adressez-vous à la Cour suprême, et c'est la Cour suprême qui est l'organe agissant en tant que Cour constitutionnelle, qui doit dire le droit et demander à chacun de se conformer par rapport à son arrêt.
Freddy Mabialou, si les observateurs utilisent des normes occidentales avec les acteurs congolais, rien ne sera jamais crédible ni transparent. Le problème est culturel. En ce qui concerne les rapports qui se suivent et se ressemblent, s'agit-il tout simplement d'une solidarité occidentale? Où sont passées les missions africaines qui, elles, sont plus proches de notre culture, entre parenthèses, habitudes et modes de vie? Réaction André Alain Tundu.
Je n'ai pas entendu les missions africaines, effectivement, mais attendons voir. Hein, je ne sais pas pourquoi ils n'ont encore rien dit, mais je crois que la SADC s'est quand même prononcée. Et il y a même l'ensemble des observateurs congolais qui se sont prononcés. Alors, voyons voir, attendons ce qu'ils vont dire. Mais moi, personnellement, je pense que les missions africaines ont cette différence par rapport aux autres, c'est qu'ils ne font pas du sensationnalisme, n'est-ce pas? Ils ne viennent pas ici avec complexe pour dire voilà ce qui est parfait, c'est, chez nous ça n'arrive jamais. Non, je ne dis pas cela pour nous dédouaner. Je dis cela pour que nous puissions prendre exemple sur ce qui se passe ailleurs, sur la sagesse. Si un État aussi avant-gardiste, aussi techniquement avancé et technologiquement que les États-Unis en viennent au comptage manuel pour départager deux concurrents à la présidentielle et qu'à l'issue de ces deux partages, l'un d'eux n'était pas satisfait, mais quand même ils ont dit « sauvons l'essentiel ». C'est parce qu'ils se sont rendus compte que ce contentieux-là n'était pas de nature à vicier la volonté populaire. C'est important sur le plan du droit, n'est-ce pas? Il n'y a pas de petit droit. Mais sur le plan factuel, sur le plan d'incidence politique sociologique, eh bien, ça ne méritait pas ce traitement. C'est ça la sagesse.
Professeur Bob Kabamba, vous avez lu un extrait du communiqué de la mission d'observation de l'Union européenne qui, pour la paraphraser, demande aux acteurs politiques congolais de tirer les conséquences et de résoudre ce problème. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, d'après vous?
Merci. Le fait que les différentes missions ont fait leur travail, hein, ont fait leur travail de manière claire en mettant sur la table toute une série d'éléments qu'il faut vraiment prendre en considération. Mais le processus, il est défini par un cadre légal. Et le cadre légal, on le connaît en RDC, il est la Constitution et c'est la loi électorale. Et la procédure, en acceptant les candidatures, les candidats en acceptant de pouvoir poser leur candidature, s'inscrire, en fait, accepte tout le processus qui est inscrit dans ce cadre légal. Et qu'est-ce que ce cadre légal? Et donc, le cadre légal dit, de manière très claire, que lorsqu'il y a effectivement toute une série de contestations, c'est à la Cour suprême que les différents candidats peuvent aller. Alors, Cour suprême, ça ne veut pas non plus dire qu'on a résolu tous les problèmes qui pourraient se poser. Alors là, il revient aux politiques de manière très claire à pouvoir voir s'il est important, au-delà de la décision de la Cour suprême, de pouvoir avoir des mécanismes de conciliation ou de mécanismes de médiation qui vont permettre à ce qu'il puisse y avoir acceptation des uns et des autres par de ces résultats. Je sais qu'il y a une mission de l'Union africaine qui joue ce rôle de médiation. Il y a aussi des médiateurs congolais qui ont été mis en place depuis, je pense, quelques mois, qui sont normalement là pour essayer de pouvoir mener ce travail de médiation, de faire en sorte que ces résultats soient acceptés d'un côté et de l'autre. Et je pense aussi que c'est de cette façon que l'on va progressivement amener à consolider un état de droit. Et alors, pour ce qui concerne effectivement les missions d'observation, je voudrais quand même souligner, quand même, lorsque l'on lit la déclaration du cardinal Mosengo, on peut quand même se poser des questions, parce que lorsque lui-même, dans sa déclaration, fait état de toute une série de faits, dont notamment des chiffres, et que j'ai essayé de revérifier les différents chiffres qui ont été donnés par le cardinal Mosengo sur base des chiffres qui ont été publiés par la CENI et se repris sur le site internet de Radio Capi, je dois vous avouer que je ne tombe pas sur les mêmes conclusions que le Monseigneur Mosengo. Or, ce sont ce genre de choses qui, au lieu de pouvoir amener à ce qu'on puisse avoir une certaine accalmie, malheureusement, mettent, de mon point de vue, de l'huile sur le feu en donnant des faux chiffres et aussi des fausses infos argumentaires qui ne fait que rendre encore plus difficiles les choses qu'elles le sont. Que Monseigneur dise qu'il restait encore 34 000 bureaux de vote le 6 décembre, alors que, en lisant le communiqué de la CENI, il restait plus que le taux de compilation était de 89%, donc il restait que 4 000, plus ou moins 6 000 bureaux de vote et pas 34 000, comme le dit le communiqué, la déclaration du cardinal. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment très prudent de pouvoir, des fois quand on fait des rapports, d'avoir les bons chiffres, un bon canal argumentaire qui puisse permettre qu'il puisse y avoir l'accalmie plutôt que de pouvoir réalimenter des choses qui vont aller dans le sens d'amener à plus de violence dans la RDC.
Professeur, merci beaucoup. Il nous reste moins de 2 minutes pour terminer l'émission. En guise de conclusion, professeur, vous avez dit que j'ai compris que la solution est politique et qu'il faudrait des mécanismes de conciliation pour faire accepter les résultats. À quoi pourraient aboutir toutes ces négociations, s'il faudrait dire ainsi?
Ce n'est pas vraiment des négociations, c'est plutôt une médiation. C'est une médiation, ça veut dire, grosso modo, c'est de pouvoir amener en fait les acteurs à se mettre d'accord sur un processus et à se mettre d'accord sur un cadre par rapport à la publication des résultats. Négociation, alors à ce moment-là, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord et qu'on se discute par rapport à une chose et qu'on ramène les gens à une autre position que celle qui est sur la table. De mon point de vue, c'est une médiation, c'est-à-dire voir les mécanismes politiques qui peuvent amener justement à ce que chacun puisse arriver à accepter les résultats tels qu'ils seront publiés par la Cour suprême de justice dans les prochains jours.
Merci, professeur Bob Kabamba. Professeur Auguste Mampouya, il y a Romain Kassendouloa qui dit: pour moi, comme les observateurs n'ont pas mandat ni de valider ni d'annuler les résultats de l'élection présidentielle, j'épouse l'idée de l'opposition qui sollicite la médiation de la communauté internationale et de l'Union africaine. Professeur, en guise de conclusion, à quoi pourraient aboutir ces négociations?
Non, mais Bob a bien précisé qu'il ne s'agit pas de négociation, c'est une médiation qui devrait arriver à une conciliation. Eh bien, si les acteurs politiques congolais sont ouverts, ils vont s'engager dans cette voie. Mais je voulais revenir sur une chose. Il n'est pas vrai, comme l'a dit Andy Atundu, qu'au Kassai, on a empêché les témoins, parce qu'aucun rapport ne cite le Kassai parmi les exemples des irrégularités. On cite le Katanga, le Sud Kivu, la province orientale, l'Équateur. On ne cite nulle part le Kassai. Donc, le Kinshasa. Donc, il ne faut pas partir des préjugés qui ont toujours été alimentés contre les Kassaïens pour inventer des échanges sur leur dos. Maintenant, on nous dit qu'il faut accepter les résultats des urnes. Les résultats des urnes, ce ne sont pas les résultats pratiqués par la compilation, la soi-disant compilation, ce sont les résultats issus des urnes, c'est-à-dire des PV de dépouillement.
Merci, professeur André Atundu. Un mot en guise de conclusion.
Merci. Je pense qu'il faut accepter le verdict des urnes, qui sera dit par la Cour suprême de justice, parce que c'est la voie de droit que nous avons choisie. Et puis, l'avenir n'est pas bouché pour le perdant. Il a un rôle à jouer dans la nation. Et s'agissant de la situation au Kassai, je crois que M. François Mamba n'a pas été libre de battre la campagne.
Il y a eu des bureaux où on a chassé des témoins.
Merci. Merci. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Retrouvez cette émission sur radiocapi.net ou réécoutez-la en rediffusion à 4h15 de Kinshasa. Au revoir.